bienvenue dans notre rendez-vous classique de l'autre côté de la musique, une autre approche de la grande musique présentée, proposée par Michel Giardella. Bonjour Michel.
Bonjour.
Une approche qui nous emmène dans des contextes assez éloignés aussi, et puis toujours des matières, des thèmes, des éléments qui peuvent évoquer un grand nombre de choses, d'inspiration aux compositeurs. C'est ainsi que vous allez nous dévoiler un petit peu la thématique retenue ce mois-ci.
Eh bien, nous allons pour une proche voisine, la Lune et les musiciens, quelle vision ils en ont eu, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Alors, on va commencer tout simplement, à propos de ce satellite, par un petit opéra de Franz Joseph Haydn, Le Monde de la Lune, Il Mondo della Luna. Alors, en 1761, Joseph Haydn est employé par la famille Esterhazy. À l'occasion du mariage du fils cadet de son protecteur, il compose Le Monde de la Lune. C'est une bouffonnerie écrite sur un livret d'un écrivain italien très célèbre, Carlo Goldoni. Alors, il écrit beaucoup et c'est un très riche écrivain. L'opéra n'a pas eu un grand succès. Il était fait donc pour un mariage. Il a été joué 2-3 fois et il est tombé dans l'oubli. Et il n'a été ressuscité que récemment. Mais l'argument est très amusant. Bon, d'abord, il nous dépeint les mœurs du XVIIIe siècle, du temps de Goldoni en Italie. Alors, c'est un côté très positif. On nous montre la Lune comme quelqu'un de très gentil, très affectueux, très agréable, et que les gens qui habitent sur la Lune sont tous comme ça. Alors, le professeur Eclitico observe la Lune et ses habitants. C'est du moins ce qu'il affirme. Ainsi, lorsque Bonafede, un bourgeois crédule et naïf, ajuste son œil à la lunette, il voit des petites silhouettes que le faux astronome et ses complices, le chevalier Ernesto et son serviteur Cecco, agitent pour le duper. Dans quel but les trois hommes veulent épouser les deux filles du Barbon, ainsi que sa servante. Donc Bonafede est lui-même épris. Ils lui font croire qu'il peut voyager sur la Lune pour y goûter les plaisirs de la vie. Les trois comparses veulent amadouer le vieux bourgeois, d'abord réticent, pour qu'il change d'avis. Donc, on l'emmène sur la Lune. Et sur la Lune, il va être très très content, parce que sur la Lune, les mœurs sont complètement différentes de sur la Terre. Les femmes ne parlent pas beaucoup, les femmes sont fidèles, ne trompent pas leur mari, elles sont économes. Bon, alors, bien sûr, c'est un vieux barbon. Les filles sont obéissent à leur père. Elles épousent le mari que le père a choisi. Et quant aux domestiques, ils ne volent rien. Ils sont en adoration devant leur maître. Et en plus, sur la Lune, il y a des jeunes filles. Et les jeunes filles sur la Lune, elles aiment les vieux. Donc, pour notre ami qui va aller sur la Lune, c'est
une bonne,
le
une
sommet
nouvelle.
Du plaisir et de la vie. Voilà, c'est une farce amusante, mais qui en dit long sur les mœurs du XVIIIe siècle, et aussi sur la musique de Haydn, qui est très ambiguë. Alors, c'est la rigolade, mais parfois, on ne sait pas trop si on ne va pas glisser sur le sérieux et le drame. Mais ouais. Enfin, c'est l'opéra bouffa. Voilà, alors je vous propose un tout petit passage de cet opéra de Haydn, Il Mondo della Luna.
Oh.
Pour la première proposition musicale autour de la thématique de la Lune, voilà, qui se décline en de nombreuses époques et compositeurs, Michel.
Oui, oui, bien sûr. Hein. Alors, peut-être le plus célèbre pour les enfants et les Français, c'est Au clair de la Lune, ah, mon ami Pierrot.
Bon, il faut y retrouver des racines dans les compositions, oui, il y a bien longtemps.
Il y a bien longtemps, siècle, voilà. Bon, on trouve dans des textes, par exemple des Carmina Burana, une allusion à la Lune, hein, très souvent, la Lune et la fortune, bon, ça rime. Voilà, mais surtout ceux qui ont marqué notre histoire, c'est les romantiques et la Lune. Mmh. Alors, je vous propose peut-être ce qui est le plus célèbre, c'est la sonate de Beethoven, la 14e sonate au clair de lune. Alors, ce qui est un peu amusant, c'est que elle a été composée à un moment très douloureux de la vie de Beethoven. Beethoven est en train de découvrir qu'il va devenir sourd. C'est un moment fatidique, bien sûr, et il est profondément bouleversé par cette histoire. Et cette sonate au clair de lune, Elle marque un tournant, et un tournant dans l'histoire du romantisme. Elle a été écrite au début du 19e siècle, 1802-1803. Et elle est écrite, alors il y a plein de malentendus dessus. D'abord, cette sonate, elle s'appelait pas Au clair de lune, bien sûr.
Ouais, ouais. Hein?
C'est après que le titre est arrivé, et c'est un poète allemand, Ludwig Rellstab, en 1832, qui lui a attribué ce nom. Et Beethoven était bien sûr déjà mort, donc il n'a jamais su que sa sonate allait s'appeler la sonate au clair de lune. Alors, cette sonate, elle évoque, pour les gens de l'époque, elle évoque un bateau, une barque au clair de lune sur le lac des Quatre Cantons en Suisse. La réalité, elle est quand même tout à fait différente, puisque le premier mouvement décrit une marche funèbre et que la sonate fut cataloguée comme musique de deuil. Son jeu, par Beethoven, évoquait, d'après les assistants, des fantômes traînant leurs chaînes dans un château. Ces erreurs d'appréciation sont en grande partie dues à un jeu biaisé de la plupart des interprètes dans le but de répondre au goût du public, parce que du temps de Beethoven, on n'interprétait pas la musique comme au XIXe siècle, et au XIXe siècle, on n'interprétait pas la musique comme au XXe siècle. Hein, les sentiments ont évolué, le regard que nous portons sur la musique évolue avec les mœurs, évolue avec notre sensibilité qui, elle, a changé depuis les temps des temps. Hein. Voilà, donc je vous propose un petit passage de la sonate au clair de lune de Beethoven, hein, moment de la naissance du romantisme.
Écoutons. Thank you. l'une envoûtante, l'une inspiratrice, qui inspira notamment aussi Ludwig van Beethoven pour une très belle sonate mélancolique. On a l'impression d'être un petit peu en apesanteur autour de la lune, Michel.
Bien sûr, oui, oui. Alors bien sûr, c'est un des chefs-d'œuvre de Beethoven. Mmh. Hein, bien. Et ce qui est surtout important dans l'histoire de la musique, c'est qu'elle marque l'arrivée du romantisme. Alors voilà, alors je vous propose de continuer avec le romantisme. L'autre grand romantique du siècle, c'est Schubert. Schubert, lui aussi, a eu des relations un peu privilégiées. J'ai trouvé une dizaine de leaders et de chants sur la Lune. Alors, je vous en ai choisi un, bon, sur ce côté un cœur d'homme, qui est quand même assez intéressant, qu'on entend très très rarement, d'un poète autrichien, Franz von Schubert. Alors, je vous le lis, Clair de Lune, de Franz von Schubert. La fleur magique de la lune rit, et son regard expressif paraît invoquer dans notre triste nuit terrestre le retour du paradis d'amour. Vaincu par le bras puissant du sommeil, soucis, péchés et douleurs ont péri. Seul le tendre et le beau flottent, libérés dans les rondes surnaturelles. Mais voyez, les prés sont changés. Ce n'est plus notre vieille terre. Oh, voyez, un jardin d'argent vibre, parfumé, plein de brume émaillée et de lumière magique. L'esprit libéré du jour terrestre revêt la robe éthérée de la nostalgie. Il boit en silencieuse jubilation la béatitude absolue du ciel. Pourtant, le chant du rossignol rappelle à son monde le tendre cœur. Le chant éveille dans tout délice la douleur suprême, la douleur d'amour. Donc, Clair de Lune de Schubert.
Bye.
très beau leader de Schubert, avec comme toile de fond, comme cadre, toujours la lune qui aspire.
La lune qui nous accompagne quand on marche, voilà, hein, les enfants adorent ça.
Ah, oui. Peut-être que aussi ça a pu évoquer des compositions.
Voilà, alors on a toujours là une lune qui est dans le romantisme, mais on va trouver chez un musicien très important français, dans sa suite bergamasque, un passage clair de lune. C'est Claude Debussy. Alors, c'est un morceau très célèbre. On dénote dans le cinéma, je crois, une trentaine d'interventions de cette partie du clair de lune de cette suite. Dans le cinéma, les citations, donc. De même que tout à l'heure, dans Beethoven, voilà
nombreuses
citations sont reprises, soit comme musique de fond, musique d'atmosphère, musique...
Des films thrillers aussi.
Voilà, exactement, tout y est. Hein. Voilà, alors ce clair de lune de Debussy est certainement inspiré du clair de lune de Verlaine. Voilà. Mais bon, ça, c'est ce qu'avait dit Debussy. Ça a été composé en 1890. Et c'est quand même peut-être le morceau le plus célèbre de Claude Debussy.
En tout cas, celui qui semble le plus réussi, d'après les critiques, de sa jeunesse.
Oui, c'est un morceau bon, et que tout le monde connaît, a entendu plus ou moins, mais c'est le plus réussi, comme tu dis, de la jeunesse de Claude Debussy. Donc, il a été mis en scène en 2013 pour l'anniversaire de la naissance de Debussy. Hein, et c'était une mise en scène très 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 moderne. Bon, mais en fait, ce clair de lune a bien survécu à beaucoup d'émotions. Hein, bon, Walt Disney l'a utilisé, Paul Kaufman dans L'étoffe des héros, et Vogue le navire dans Fellini, dans Le clochard de Beverly Hills, film de Mazursky, dans Frankie et Johnny de Marshall, dans 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano, un arrangement pour orchestre conclu Ocean Eleven. Alors, il y en a comme ça une citation d'une quarantaine on voit que ce clair de lune a profondément marqué ceux qui l'ont entendu. Voilà. Alors, je vous propose de la suite bergamasque qui compose 4 morceaux, dont ce morceau, Le clair de lune, de Claude Achille Debussy. Thank you.
Voilà pour cette suite bergamasque hein, de Claude Debussy, avec, pour dire, quatre morceaux
rassemblés, dont le célèbre Clair de Lune au milieu de ce
qui
de
est
cette
une
suite.
Promenade sentimentale, hein, très qui affectif, donne une certaine ouverture voilà. aussi. Et Gabriel Fauré a aussi été partie prenante.
Oui. Beaucoup de musiciens il y a beaucoup de leaders français sur la Lune, de Massenet, de toute cette génération fin du 19e, début 20e ont écrit sur la Lune. Hein. Mmh. Mais Debussy a la gloire, lui, de ce succès, hein, du succès de ce Clair de Lune.
On évoquait, Michel, effectivement, de nombreuses références du 7e art pour les morceaux que nous avons précédemment écoutés. Là, ça se vérifie encore.
Oui, c'est incroyable.
Le nombre de reprises qui ont été effectuées pour des films, qu'il s'agisse de films français, américains, Walt Disney, les grands films.
Les grands films
plus confidentiels et vraiment.
Puisé dans cette musique. Et cette musique où la Lune sert de support pour une évocation. Mm.
Tout à fait. Voilà. Une évocation presque officielle, on pourrait dire, au vu de nombreuses références.
Mais attends. On va pas s'emballer parce que maintenant, la Lune que je vous propose, elle est tout autre.
Voilà. Hein? Un peu plus contemporaine.
Elle est contemporaine. Il s'agit de la Lune du Pierrot lunaire d'Arnold Schoenberg. Alors, c'est une œuvre qui a été créée en 1912, bien sûr, par Arnold Schoenberg. Les paroles consistent en 7 des 21 poèmes d'une traduction allemande du Pierrot lunaire d'un poète belge qui s'appelait Albert Giraud. Les poèmes, dont la forme française est assez traditionnelle, ça a des rondeaux de vers d'octosyllabes, hein, à rime, et l'allemande plus moderne, elle, dans la traduction, il n'y a pas eu de rythme et les rythmes sont libres. Par contre, c'est une atmosphère féerique, c'est une vision fin de siècle et des images provocatrices et macabres. Donc c'est le côté négatif de la Lune, là. Voilà. Alors bien sûr, cette œuvre, elle est très très importante dans l'histoire de notre musique. Elle est parlée chantée. C'est le Spreizang. Alors, les instruments, c'est le piano, le piccolo, flûte traversière, clarinette basse, violon, alto et violoncelle. Cette instrumentation a une grande incidence dans la composition des orchestres de chambre dans la musique du XXe siècle. De plus, certains musicologues voient dans le Pierrot lunaire un précurseur des œuvres dodécaphoniques de Schoenberg, c'est-à-dire la musique qui n'a plus les sons traditionnels. Voilà, l'harmonie de cette œuvre est déjà liée à l'atonalité et marque dans l'évolution du langage de Schoenberg une nette rupture avec les compositeurs post-romantiques. Alors, le parler-chanter, bon, est une forme artistique inconnue de nos jours qui se fonde au début du XXe siècle sur la déclamation très expressive et très théâtrale héritée des grandes diseuses de la fin du XIXe siècle et sur une ligne musicale. Pour avoir une idée de cette sorte de déclamation en français, on pourrait trouver des enregistrements de Sarah Bernhardt. Ces phrases qui n'en finissent pas, longues, théâtrales. Voilà. Alors, par contre, il faut savoir aussi que quand Schoenberg a écrit cette œuvre, il ne l'a dédiée ni à un homme, ni à un chanteur mâle, ni à une chanteuse, à une femme. Et c'est comme on veut. Mais les enregistrements qui existent du Pierrot Luneur, c'est que des femmes qui l'ont chanté. C'est un peu étrange. Alors, je vais vous lire quand même un peu les petits bouts de musique qu'on va entendre. On va entendre deux petits poèmes, mais ils sont très courts. Ils durent un peu presque 2 minutes chacun. Mais vous aurez une image de la lune auquel on est peu habitué quand même. Alors, évocation. Madone, ô Madone des hystéries, monte sur l'autel de mes vers, la fureur du glaive à travers tes maigres mamelles taries, tes blessures entolories semblent de rouges yeux ouverts. Ô Madone des hystéries, monte sur l'autel de mes vers, de tes longues mains appauvries, tend à l'incrédule univers. Ton fils aux membres déjà verts, aux chairs tourmentes et pourries, ô Madone des hystéries. Ouais, c'est déjà plus tout à fait pareil. Et le dernier poème qu'on va entendre, qui s'appelle « Lune malade », qui est, je trouve, tout à fait dans ce regard sur la lune du XXe siècle. « Ô lune nocturne phtisique, sur le noir oreiller des cieux, ton immense regard fait vieux m'attire comme une musique. Tu meurs d'un amour chimérique et d'un désir silencieux. Ô lune nocturne phtisique, sur le noir oreiller des cieux. » Mais dans sa volupté physique, l'amant qui passe insoucieux prend pour des rayons gracieux ton sang blanc et mélancolique, ô lune nocturne phtisique. Voilà, Schoenberg, le Pierrot Luneur.
Pierrot lunaire de Arnold Schoenberg, avec toujours comme chef d'orchestre associé Pierre Boulez, hein,
Boulez,
on souligne.
Oui, le grand maître de la musique du XXe siècle, hein, le grand compositeur et grand chef d'orchestre. Bien sûr, il a marqué le XXe siècle, hein, indéniablement.
On trouvera d'ailleurs d'autres œuvres de Pierre Boulez qui sont un petit peu dans la suite logique de Alban Berg, Schoenberg,
tous les Viennois, l'école viennoise, Webern aussi. Donc c'est des gens qui ont changé notre écoute, qui ont changé notre regard et notre écoute sur la musique, puisque quand on a fait tomber l'harmonie, il est quand même resté de la musique.
Voilà. Et effectivement, ça donne un autre contexte, une autre facette de la musique classique.
Bien
avec
sûr, une
approche différente.
Une approche peut-être plus difficile.
Moins conventionnelle.
Moins conventionnelle et auxquelles nos oreilles ne sont pas bien habituées quand même.
Ceci dit, ça procure quand même de belles sensations.
Exactement.
De l'harmonie.
C'est riche, comme
c'est
musique.
Très riche. Voilà pour Schoenberg. Merci beaucoup, Michel, pour ce paysage lunaire avec des compositeurs qui ont été bien inspirés par cette lune.
Voilà.
On se donne rendez-vous pour d'autres thématiques de l'autre côté de la musique.
Au revoir.
Merci bien. Au revoir.